Gloire au Seigneur, je suis heureux à nouveau ce soir d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Donc nous allons ouvrir la Bible dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 1er, et nous allons méditer un petit peu plus sur donc les choses que nous avons partagées dimanche matin. Verset 1er, « Il me ramena vers la porte de la maison. » Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. » Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglahim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Donc, nous avons parlé dimanche matin plutôt du prophète et des étapes dans lesquelles le Seigneur donc voulait l'amener, les étapes par lesquelles il voulait le faire passer. Donc, bien sûr, nous avons parlé de la marche selon l'esprit, les chevilles, de prier selon l'esprit, les genoux, et du baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion, il fallait y nager. N'avons pas parlé, donc, faute de temps, des reins, mais peut-être, avant d'aller plus loin et de méditer à partir du verset 6, des effets du torrent qui se produiront partout où il va couler, eh bien, quelques mots sur les reins. La Bible dit dans 1 Pierre, on est un peu plus libre ce soir, c'est moins une prédication, c'est plus une méditation, mais dans 1 Pierre, au chapitre 1er et au verset 13, l'apôtre Pierre dit par exemple, quand il parle des reins, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'apôtre Pierre parle ici des reins qui doivent être sains, et il parle des reins comme étant l'entendement, la mentalité, le monde de nos pensées. Et c'est vrai qu'il est nécessaire que nos pensées, ce qui se passe en nous, dans notre tête, derrière notre boîte crânienne, soit aussi influencé, maîtrisé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Nous avons sa manière de penser, nous avons sa mentalité. Par exemple, quand il est dit dans l'épître de Paul aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », littéralement, c'est « Ayez en vous la mentalité, la forme de pensée ». Et puis, l'apôtre parle de Jésus qui s'est dépouillé, qui n'a pas regardé à son égalité d'avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et en prenant une forme de serviteur. Tout à l'heure, donc, j'étais sur Tarbes et je méditais, je priais, et on a sonné à la porte, et la dame qui me reçoit, une personne âgée de 86 ans, donc n'était pas là. Donc je suis descendu, et c'était une personne qui était témoin de Jéhovah. Et tout de suite, donc je lui ai dit, écoutez, pour moi, Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, il est Dieu. Il est Dieu, Philippiens 2, il est Dieu. Et il n'a pas regardé son égalité, sa divinité, mais il est venu. Il s'est abaissé en prenant une forme humaine, il s'est incarné, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu vraiment le serviteur des hommes. Et c'est parce qu'il s'est fait homme et serviteur, eh bien, qu'il a été ensuite élevé. Et en passant, pour vivre un service efficace, il faut rester simple. La Bible dit qu'il s'est fait sans réputation, qu'il est devenu comme un simple homme. Et nous avons besoin de simplicité pour servir Dieu efficacement. Et c'est peut-être aussi une des conditions pour avoir l'onction de Dieu sur notre vie, l'humilité, la simplicité, le caractère de Christ, la mentalité du serviteur et de la servante. Il faut que nos reins, notre mentalité, notre entendement soient transformés et touchés par le Saint-Esprit. Alors à partir du verset 6 d'Ézéchiel 47, il est question donc des effets du torrent. Il n'est plus question des étapes dans lesquelles le prophète ou par lesquelles le prophète va passer, mais des effets du torrent, de ce torrent de vie qui va couler du seuil de la maison. Et nous avons besoin, frères et sœurs, encore une fois, que ce torrent, eh bien, nous traverse. Parce que c'est une chose de le traverser, mais c'en est une autre que d'être traversé par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Il est dit au verset 6 et 7, « Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent, et ce mot beaucoup, il revient beaucoup, beaucoup d'arbres de chaque côté. » Alors, il y a un torrent, et là où il y a le torrent, il y a la vie, on le verra, et il y a des arbres. L'arbre, symboliquement, dans l'Écriture, c'est l'homme. C'est l'homme. L'aveugle que Jésus guérira dira « Je vois les hommes comme des arbres ». Bon, il faut les voir un peu plus clairement quand même. Mais l'homme peut être comparé à des arbres. D'ailleurs, il est dit dans le livre des Psaumes que les arbres battent des mains. C'est symbolique, évidemment. Je ne sais pas si vous battez des mains, j'allais dire si vous avez le droit de battre des mains. Mais ce n'est pas un péché puisque c'est écrit dans la Bible. C'est une manière qui peut exprimer le remerciement. Voilà. Les arbres sur le bord du torrent, de chaque côté. Il est dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 1er, qu'il y a un arbre ici qui est au bord du torrent, qui est au bord du courant d'eau, de chaque côté, à droite et à gauche. Heureux l'homme, psaume 1, verset 1er, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite de temps en temps. Non. L'apôtre Paul disait que la parole de Dieu habite en vous à peu près, quoi, dans toute sa richesse, enrichie par la parole de Dieu en permanence. La méditation, c'est plus que la lecture. La Bible dit « nourrie des paroles de la foi », c'est se nourrir. Et pour passer de la lecture, par exemple, quand on mange, si on ne digère pas ce que l'on mange, eh bien cela ne nous sera pas profitable. pour que ça passe dans le système digestif, il faut le mastiquer, l'avaler. Et la méditation, c'est plus que lire. Plus lire, je dirais, c'est mettre dans la bouche la chose, sans la digérer. Méditer, c'est l'avaler. C'est la faire passer dans tous les fibres de notre être afin que cela nous soit rendu profitable. Il ne faut pas seulement lire. Il faut intégrer les vérités. Il faut que la parole de Dieu soit mangée. Mange le petit livre. Alors, bon, certains déséquilibrés ont fait la chose physiquement, mais c'est spirituellement, bien sûr. Les paroles de Jésus, elles sont esprit et vie. Elles donnent la vie. C'est pour ça que Jésus disait « Celui qui me mange vivra », etc. Donc, mais qui trouve son plaisir. Je ne sais pas si vous aimez la loi. Moi, je crois que je me suis fait flasher tout à l'heure en venant, juste en partant de Tarbes à 60 au lieu de 50. Donc la loi, là, ici, des fois, c'est... Pourtant, Dieu le sait, je fais tous mes efforts pour ne pas enfreindre la loi. Mais malheureusement, parfois, un petit coup d'accélérateur et... Tchic. Mais heureusement, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on ne doit pas respecter la loi, hein. Parce que ça, c'est pervertir la grâce de Dieu. Mais oui, le juste tombe, mais bon, il se relève. Bon, je n'ai pas besoin de me justifier quand même. Parce que celui qui est sans péché ici, jette la première pierre. Qui trouve... Mais parfois, c'est bien aussi de se rendre compte que les prédicateurs, les pasteurs sont des hommes. C'est vrai, hein ? Quelqu'un disait, on est guéri dans les meurtrissures de Jésus et on est édifié dans les blessures de nos frères. Ça fait du bien de partager aussi nos blessures, je dirais même parfois nos fragilités. Verset 2, on va avoir du mal, hein, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. N'en est pas ainsi, bien sûr, des méchants, on peut méditer le psaume. Il y avait donc au bord du torrent des arbres, beaucoup d'arbres de chaque côté. L'arbre représente ici l'homme qui médite la loi de Dieu, qui médite les principes qui régissent le royaume de Dieu. Et puis, dans le livre de Jérémie, il y a un autre texte qui nous parle de l'homme arbre, si je puis dire, Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. » C'est fort, hein ? Et qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Par contre, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, l'espoir. Lui aussi, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Et lui aussi est béni. Il est dit qu'il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Qui ? Celui qui est planté près des eaux. C'est celui de chaque côté, c'est celui qui se nourrit en permanence de l'Écriture. C'est peut-être basique ce que je dis, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible tous les jours, qui se satisfont du trésor quotidien. Je n'ai rien contre le trésor quotidien, j'y écris de temps en temps. Alors, des fois, les gens disent « Ah, c'est vous, Yvan Cassard !» Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en plus, ça, c'est quelque chose de digéré. Donc, il faut que vous-même, vous alliez dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, et que vous-même, vous vous instruisiez et que vous demeuriez, que vous nourrissiez des paroles de Dieu afin d'être un arbre près du torrent. Parce que le torrent coule, mais il est dit ici, en ce qui concerne l'homme qui se confie en Dieu, qui espère en l'Éternel, eh bien cet homme, il étend ses racines, il va chercher. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'est pas, eh bien, conditionné par la météo, il n'est pas conditionné par les circonstances, mais il devient, par la grâce de Dieu et par cette alimentation surnaturelle, il devient, je dirais, un thermostat. Vous savez, il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. La différence, c'est que le thermomètre, on sait tout de suite si ça va ou si ça va pas, s'il fait chaud ou s'il fait froid. Tandis que le thermostat, lui, il fait le climat. Il régule la météo. Et ça, c'est vrai quand des hommes de Dieu... Et vous savez, des fois, je dis avec les jeunes... Moi, je suis jeune, mais j'ai un avantage, c'est que j'ai commencé très jeune. Donc, je suis un jeune véhicule, mais avec beaucoup de kilométrage. Et des fois, je dis à des jeunes bon, qui commencent, mais comme on a le même âge, on a une certaine liberté. Et des fois, ils disent, mais je ne sais pas si c'est le plan de Dieu que je sois là. Je crois qu'il y a, bien sûr, l'importance d'être à la place où Dieu nous veut. Mais par exemple, les ministères dons, ils sont appelés, à, entre guillemets, à se promener. Il est dit que Jésus se promenait dans le temple. C'est plus que de la promenade, le ministère, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a un temps, des moments... C'est que ce qu'il faut réaliser, c'est que l'important n'est pas où nous sommes. L'important est toujours ce que nous sommes. Il y a des gens, même, pardonnez-moi de le dire, mais des pasteurs. On peut les mettre n'importe où, ça ne marchera jamais. Et puis d'autres, on peut les mettre n'importe où et ça marchera toujours. Parce que le problème n'est pas les églises. Parce que les églises aiment le Seigneur. Bon, je ne vais pas parler de ça trop, mais c'est ça qui est important. C'est ce que nous sommes. Et un homme de Dieu, un Joseph par exemple, ou un David, la Bible dit que partout où il allait, eh bien, il réussissait. Malgré la jalousie de Saül, hein, il a commencé, hein, Samuel 18, à être jaloux de David, mais peu importe, parce que Dieu était avec lui. Et idem pour Joseph. Idem était béni. Peu importe, même en prison, je dirais que tout ce qu'il faisait était béni, bien parce qu'il obéissait, évidemment, parce qu'il était dans la communion avec Dieu, parce que Dieu était avec lui. Voilà. Donc, ce ne sont pas les circonstances qui doivent nous conditionner. Quand vraiment on est nourri de la parole de Dieu, tout ce que nous faisons, et où que nous soyons, même si c'est l'année de la sécheresse, même si c'est une... On est dans des temps de sécheresse. Vous savez, on parlait d'Ézéchiel un peu, enfin on est dans Ézéchiel, mais quand à un moment donné il se retrouve dans la vallée, il est dit, ces eaux, ils étaient complètement secs. Je veux dire, il n'y avait plus rien à faire, c'était sec, c'était mort. Parfois il y a des situations, c'est mort, c'est sec de chez sec. Eh bien, avec le torrent, avec la grâce de Dieu, on peut, nous, être verdoyants. Quand tout le monde est triste, quand tout le monde est dans l'incrédulité, si on se confie en l'Éternel, si on a un contact fidèle, régulier avec la parole de Dieu, eh bien, tout ce que nous ferons nous réussira. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais d'échec. Il ne faut pas non plus être idéaliste, même s'il faut être des modèles parmi les modèles. Timothée, Paul lui disait, sois un modèle parmi les fidèles, donc il fallait qu'il soit un top modèle. Mais même les modèles et les top modèles parmi les modèles et les fidèles, eh bien, peuvent avoir à certains moments des moments difficiles. Mais par la grâce de Dieu, eh bien, on peut être dans sa faveur et dans son amour. Donc, première caractéristique, les arbres sur le bord du torrent. Ensuite, il est dit au verset 8, il me dit... Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Il est intéressant de savoir aussi que la mer, dans l'Écriture, généralement est acceptée comme étant le symbole des nations, des populations, du monde. Mais cette eau, quand elle nous touche, quand elle se déverse, eh bien, elle apporte la vie, bien sûr. Tout être vivant qui se meut vivra, c'est formidable. Mais ici, il est dit qu'elles deviendront saines. Saines. S-A-I-N-E. Et il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être saines, assainies. La Bible dit dans le psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui a de la raison. Enfin, on dit « le cœur a des raisons que la raison n'a pas ». Mais un chrétien a une raison saine. Un chrétien, c'est quelqu'un de raisonnable. Je ne sais pas si vous avez déjà interprété ce verset de cette manière, quand l'apôtre Paul dit « soyez purs en ce qui concerne le mal et soyez sages en ce qui concerne le bien. » Vous savez, on n'a pas de mal à comprendre ce que signifie être pur en ce qui concerne le mal, mais être sage en ce qui concerne le bien. Ça veut dire que une bonne chose, si elle est mal utilisée, peut devenir une mauvaise chose. Par exemple, prier, c'est bien, mais il y a un temps pour tout. Si vous priez au lieu d'aller travailler, eh bien votre vie de prière n'est pas saine, n'est pas normale, n'est pas équilibrée, n'est pas raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous jeûnez au lieu de manger, à certains moments, il est plus sage de recommencer à manger, à s'alimenter, pour pouvoir faire ce que l'on doit faire, parce que la Bible dit quand même, non pas prier, travailler et jeûner, mais elle dit de prier et de jeûner, ou de jeûner et de prier. Vous voyez ? Donc il faut être pur en ce qui concerne le mal et sage en ce qui concerne le bien. Il faut une raison saine. Il est dit, tu acquerras ainsi de la grâce. Dans le livre des Proverbes, on pourrait le lire, le livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 4. Proverbes chapitre 3, verset 4, et même avant. Mon fils, n'oublie pas, verset 1er, mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, il est question d'une raison saine, aussi dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 15, il est dit « Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. » Une raison saine. Dieu, parfois, a besoin aussi de renouveler notre raison, notre entendement. La Bible parle également de la doctrine qui doit être saine. Tite 2, verset 1, « Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Donc il y a des doctrines qui ne sont pas saines. Il est dit encore, concernant notre foi, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Une foi saine. Donc il est possible d'avoir une foi malsaine. Et bien sûr, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1er, il est dit, voici déjà bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Une intelligence saine. Il y a donc des choses qui doivent être assainies dans notre vie. Notre raison, notre foi, notre intelligence. Quand le courant de Dieu passe dans notre vie, eh bien, il nous rend, il nous rend raisonnables, il assainit également, il renouvelle notre intelligence. Combien nous avons besoin d'intelligence, d'être renouvelés dans notre intelligence, dit l'apôtre Paul, Romains 12, verset 1er. Une intelligence renouvelée, de ne pas vivre sur les choses que nous avons seulement apprises, mais il y a plein de choses à apprendre avec Dieu, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Et pour cela, on a besoin, eh bien, de renouvellement dans l'intelligence. Moi, je ne sais pas, mais ce soir, je dis, Seigneur, que ton courant, que ton torrent coule dans ma vie, et s'il y avait des choses qui ne sont pas saines en moi, eh bien, assainis ma vie, assainis mon cœur. Ensuite, il est dit au verset 9 et 10 que cette eau, lorsqu'elle coulera, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Question de vie. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, nous venons de le voir, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Ici, il est dit, il y aura une grande quantité de poissons. Alors, généralement, le poisson est aussi interprété comme étant l'image du chrétien. En plus, nous connaissons tous le ictus, le fameux ictus. Mais ici, ce que je note, c'est la grande quantité. Alléluia. Je crois que quand le torrent de Dieu passe dans une vie et même dans une église, même si ce n'est pas, vous allez me dire, systématique, mais quand même, lors de la pêche miraculeuse, la Bible dit que Jésus va entrer dans cette embarcation qui venait de connaître l'échec, mais c'est normal, Jésus n'était pas là. Alors Jésus va prier l'apôtre de lui permettre d'entrer dans sa barque, dans sa vie, dans son échec, je dirais. Et alors que maintenant il est dans la barque, il va le prier de s'éloigner un peu de terre. Il y a beaucoup de choses à dire ici, évidemment, symboliquement. Et puis, Jésus va ensuite, après avoir prêché, parler, demander à son serviteur d'avancer en pleine eau. On rejoint le torrent, d'être dans les eaux dont on ne maîtrise plus les choses, finalement. Et là, alors qu'il est en pleine eau, le Seigneur va lui dire un détail, « Jetez les filets pour pêcher. » Mais lui va jeter un filet, l'ayant jeté le filet. L'ayant jeté. Jésus parle toujours d'abondance, parce que quand il va le faire, les filets vont pratiquement craquer. Ils seront chargés. Et alors il est dit, l'ayant jeté, ils prirent une petite quantité de poissons. Une grande quantité de poissons. Je crois, frères et sœurs et amis, que Dieu veut sauver tous les hommes. Et que votre prochaine église de 500 à 1000 membres ne sera qu'une étape. Elle ne suffira pas à accueillir tous les poissons que Jésus va amener suite à l'obéissance. C'est vrai. Ils prirent une grande quantité de poissons. Le jour de la Pentecôte, il est dit dans Acte 2, puisque là ils ont reçu le torrent aussi, ou plutôt le feu, enfin c'est le même élément, le Saint-Esprit, il est dit, Acte 2, 41, après l'effusion, la prédication de l'apôtre Pierre, vous remarquez que prière, tout à l'heure je disais avec un frère, je ne sais plus lequel, mais ce qui est important c'est ça, c'est prière, prédication et compassion. Souvenez-vous des pauvres, les prostituées, c'est ça l'Église. C'est vrai que des fois on met beaucoup d'emphase sur la musique et tout ça, mais on voit dans le Nouveau Testament, Jésus il chante une fois. Combien de fois il prie? Combien de fois il prêche? Et combien de fois il manifeste la compassion par le surnaturel et le miracle pour apaiser les douleurs? tout le temps. Et vous voyez qu'on peut des fois se tomber dans des faux combats. On passe beaucoup de temps et d'énergie pour des choses où il y a un grand silence divin. Vous allez dire, oui, mais dans les épîtres. Ben pareil, elle est dans les épîtres. Il en parle une fois ou deux, sauf erreur. Vous voyez ? La sobriété de la chose. Parce que ce qui est fondamental, c'est la parole, la prière et la compassion. C'est ça. Maintenant, c'est bien la musique. Moi, j'aime bien. Si, c'est vrai. Nous, on a même une batterie chez nous. Je ne sais pas s'il faut le dire. Et les jeunes, ils... Mais c'est vrai qu'on a des problèmes que vous n'avez pas. Mais bon, tant que je serai leur pasteur, on jeûnera, on priera et on prêchera l'évangile. Donc il est dit, acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Non pas 2999, mais 3000. C'est précis. Vous voyez ? Ça fait beaucoup, ça. Ça fait une grande quantité de poissons. Et puis, il est dit encore dans acte 4, verset 4, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva, là c'est un peu plus vague, à environ 5000. Donc là, ça devait être compliqué, parce que c'était des hommes. Donc si on rajoute les femmes alors là, et les enfants, alors là, le chiffre double et triple. Dans acte 5, verset 14, il est dit, « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus. » Donc là, on n'est plus à une église de 15 000 membres. Hein, c'est... De sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns, la multitude, là on ne calcule plus, c'est comme au ciel, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et quelques-uns étaient guéris, tous étaient guéris. Waouh, alléluia! Moi, j'aimerais vivre ça. Le torrent qui amène une grande quantité de poissons. Et alors, avec cela, forcément, donc on parlait un peu de Néhémie, le réveil, le deuxième mot clé du livre de Néhémie, il y en a trois en fait. Les thématiques Esdras-Néhémie, c'est « Levez-vous et bâtissez ». Le premier, c'est « Réveil ». C'est le mot clé. Le deuxième, c'est le mot travail. Et le troisième, c'est le mot combat. Nous travaillons et nous combattons. C'est sûr, à partir du moment où Dieu envoie le réveil, il faut s'organiser. Il faut travailler. Je dirais, il faut gérer. Il faut administrer. C'est du boulot, le réveil. Mais bon, c'est une joie d'accueillir le surnaturel. Le miracle de Dieu. Et il est dit, donc au verset 10, des pécheurs, donc bon, dans le sens pas du pécheur qui se repent, mais de celui qui travaille, des pécheurs se tiendront sur ses bords. Ça, c'est le symbole de l'activité. Pas de l'activisme. Vous voyez, ça vient après le reste. Pas de l'activisme. De l'activité... À partir du moment où Dieu a envoyé la grâce, la pluie, et il faut travailler le travail de Dieu. Il est dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et c'est important que nous réalisions que l'Église, eh bien, embauche. L'Église a besoin, non pas de patrons, mais d'ouvriers, de gens qui sont prêts à... je dirais, à travailler, à pêcher, à mettre leur vie au service d'eux. Oui, c'est vrai que chacun trouve sa place dans l'Église. C'est important. Des pêcheurs, j'ai personnellement travaillé une semaine à la pêche, à la vraie pêche. à Marignane, donc d'où je viens. J'étais étudiant et pour me faire un peu d'argent, j'avais travaillé à la pêche et je tirais les filets. Ma mère ne m'a pas laissé travailler à la pêche parce que je commençais à 6h et je finissais à 23h. Et puis j'avais des mains d'étudiant. Donc quand elle voyait l'état dans lequel j'étais, elle a dit « Mon fils, t'arrêtes et on pourvoira tes besoins. » Mais c'est un truc de fou la pêche. Les pêcheurs sur la mer qui tirent les filets à main nue, ils ont des mains... c'est pas possible parce que c'est très difficile le métier de la pêche. Vous vous renseignerez. C'est très difficile parce que les filets, il faut les tirer, mais sur les filets, ça c'est l'expérience qui parle, d'une semaine, mais c'est l'expérience quand même. Sur les filets sont collés des coquillages. Ils sont incrustés, les coquillages. Un coquillage, ça coupe. Et sur les filets, il y a des algues, donc ça glisse. Et vous ne pouvez pas travailler avec des gants. C'est pas possible. Donc, les mains des maçons sont des mains de fillettes à côté des mains des pêcheurs. Si un maçon, soyez béni. Mais aller une semaine travailler à la pêche, c'est un truc de fou. Hein. Vos mains saignent. C'est très dur. Mais quand Jésus a parlé à Pierre, il lui a dit « Ne crains pas, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Pierre sait ce que ça veut dire, c'est du boulot, c'est difficile de gagner des hommes. Je relisais « Le sage s'empare des âmes. » Ah, c'est facile de perdre. C'est tout un art de gagner une âme à Jésus-Christ. Et combien nous devrions avoir déjà beaucoup de compassion pour les hommes, les femmes. Alors, symbole de l'activité, des pêcheurs, quatrièmement, se tiendront sur ces bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. Il y a donc, une zone définie à ces hommes. L'apôtre Paul travaillait dans sa zone, je dirais. Il savait ce à quoi Dieu l'avait appelé, à être l'apôtre des païens, Pierre étant l'apôtre des circoncis. Donc des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, béni soit Dieu pour en passant les poissons de diverses espèces, pour les églises de toutes les couleurs. Hein ? Moi j'aimerais un jour que même à Saint-Étienne, que les gitans et nous, on puisse se mettre ensemble. Pourquoi se séparer? On sera ensemble au ciel, non? On ne prêche pas une culture, on prêche les principes du royaume de Dieu. C'est pas culturel, ça. Enfin bon, mais c'est un autre problème. On étendra les filets. Cinquième caractéristique, est-ce que vos filets sont en bon état? Et pour pouvoir pêcher, il faut des filets en bon état. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, au verset 21, de là, donc, étant allé plus loin, il vit Jésus, deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Vous savez, pour pouvoir pêcher convenablement, même si le torrent est là et s'il coule, il faut des filets en bon état. Il faut être réparé. On ne peut pas servir Dieu efficacement si on est tout cassé et brisé. Excusez-moi. On ne peut pas faire de la cure d'âme si nous-mêmes, on est complètement démoli. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Et si ce soir, il y a un cœur qui est cassé, qui est brisé, eh bien, Jésus peut le réparer. Les disciples ont été aussi appelés à ça. Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, il est dit ici, ils réparaient leur filet. Ce qui est intéressant de noter, je ne sais pas si vous l'avez déjà noté ici, mais Éphésiens 4, verset 11, il est question des dons de Christ. Des dons de Christ, donc il y a les dons de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus. Les dons du Saint-Esprit ou les grâces, on les connaît, les neuf dons. Et les dons de Christ, ce sont des hommes faits à l'Église. Alors, je ne sais pas si on est toujours des cadeaux, mais je ne sais pas si je suis un cadeau pour mon Église. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Il les a donnés, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour, verset 12, Éphésiens 4, 12, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le mot ici, katartizo en grec, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est le même mot que emploie Matthieu quand il est dit « il réparait les filets ». Dieu a donné à l'Église des ministères dons afin qu'il répare les saints, afin qu'il les remette en mode de fonctionnement. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est tard le soir, c'est fatigant. Et c'est aussi un mot qui est employé dans le cadre de la médecine, quand il est question de remettre en place donc une épaule déboîtée, quand il est question d'un déplacement, eh bien on remet la chose en place, et c'est exactement cela. Les ministères dons ont été donnés à l'Église pour remettre en place les choses. C'est pour ça que moi, depuis que je suis arrivé à Saint-Étienne, je les fais travailler, les pauvres, de façon abondante. Mais ils sont heureux, ils demandaient cela. Alors, mais il faut être réparé. C'est vrai, hein. Des fois on dit « allez, servez, allez, faites !» Mais quand on voit le cœur des gens, les pauvres, la foi est cassée, complètement déséquilibré par le péché. Le péché, c'est ce qu'il a fait. Il nous a cassés, il nous a déséquilibrés. Il nous a même déchirés. Il nous a déchirés. Mais Jésus répare les cœurs brisés, les filets cassés. Et puis, une deuxième caractéristique, on étendra des filets réparés. Et puis, il est dit dans Luc 5, verset 2, je ne vais pas trop aller beaucoup plus loin, mais on va arriver à la fin. Je dis ça pour que vous ayez patience. Luc, chapitre 5, verset 2. Il vit au bord du lac de Barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour, dites-le, pour laver leur filet. Voilà, pour pouvoir être utilisés, pour pouvoir étendre nos filets. Eh bien, il faut que nous ayons aussi des filets propres. Parce que le monde nous souille. Parler de la télévision, mais vous savez, le diable, moi j'hallucine, hein. je me demande, je ne sais pas si théologiquement c'est correct, donc on ne fait pas de la théologie ici, je suis prêt à être repris, mais je dis même devant le trône de Dieu, le diable se faufile. Qu'est-ce qu'il faisait au milieu des fils de Dieu, dans le livre de Job ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Est-ce que c'est possible, même parfois, qu'il se glisse, alors qu'on est en prière, on est là, puis paf, des trucs, Seigneur, mais l'adversaire cherche à souiller. J'avais, là où j'habitais avant, donc d'aller sur Saint-Étienne, Grand Couronne, j'habitais dans un autre endroit, et j'habitais au bord de la route. Ma voiture, elle était stationnée au bord de la route, ou une route nationale, des milliers de voitures passaient tous les jours. Sans que je l'utilise, même si je l'avais lavé 2 jours auparavant, au bout de 2 jours, il y avait une pellicule de poussière, mais incroyable, elle était sale. Je ne l'avais même pas utilisée. Je dirais, nul besoin de circuler, d'aller. La souillure peut venir comme ça. De marcher, d'évoluer, nos pieds ont besoin d'être régulièrement lavés. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Régulièrement, nous avons besoin que le Seigneur nous purifie, nous sanctifie, parce que de marcher dans ce monde, eh bien, ça nous souille, ça nous salit. Et ce n'est pas le temps qui nous purifie, c'est la confession des péchés et le sang de Jésus. C'est ça, hein ? Inutile d'attendre d'avoir un contact avec je ne sais qui ou quoi, C'est la confession qui nous purifie. Si nous confessons nos péchés, si tu as péché, mon frère, ma sœur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais ce qu'il faut, c'est reconnaître. Alors, je termine, Ézéchiel, chapitre 47. Merci pour Ézéchiel, monsieur Go. Ça m'a aidé. Chapitre 47, verset, donc maintenant, verset 12. Alors le verset 11, je laisserai monsieur Go vous l'expliquer. Je n'ai pas eu la lumière. Encore que, on pourrait parler du sel quelques instants. Non ? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'un chrétien, ça a du goût ? Bah oui, une prédication ointe par le Saint-Esprit a du goût, une saveur. Hein ? Vous ne trouvez pas ? Pas besoin de s'énerver, il y a une saveur. On a mangé dans un bon restaurant, il y avait un peu du gros sel là, ça passe mieux, c'est bon. C'est pas très bon pour l'attention, mais enfin, ça fait du bien, c'est bon. Et vous êtes, nous sommes le sel de la terre. Mais quand Jésus dit ça, en passant, je signale que c'est dans un contexte. Vous voyez, il parle du sel, qui est un conservateur ou qui un exhausteur de goût, qui donne du goût. Mais il est aussi question de la lumière et tout le sermon sur la montagne, plusieurs chapitres, hein, n'est-ce pas ? Et donc tourne autour de ces valeurs-là pour pouvoir être le sel de la terre et la lumière du monde. Eh bien, vous relirez le sermon sur la montagne cette nuit. Il faut pardonner, il ne faut pas s'inquiéter, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il faut être pauvre en esprit, un peu d'humilité, s'il vous plaît, ça fait du bien. Les cœurs purs, etc. Ouais, tout ça, toutes les instructions que Jésus donne. Alors il dit, vous êtes le sel de la terre. Si on vit les instructions de Jésus, si on vit la parole, alors oui, on aura un éclat. Oui, on aura une saveur. Il y a un contexte, donc. Bon, voilà, comme ça, je vous ai évité du travail, monsieur Gou. Verset 12. « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. » Alors, il n'est pas question des bananes, des choses comme ça, ici. Encore que des fois, on est un peu banane, vous ne trouvez pas ? Marcher sur une peau de banane, ça peut faire du mal. Des arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Leurs fruits serviront de remède. Et vous avez noté, c'est ce que moi j'ai noté, leurs fruits n'auront point de fin. Je trouve que c'est glorieux. Jésus disait que votre fruit demeure. Notre fruit demeurera. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier lui. Un fruit qui demeure. Beaucoup de fruits qui fait du bien, qui sert de nourriture, qui sert de guérison même, mais un fruit qui demeure. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite à Sainte-Agne. Que le torrent coule avec le prophète, mais que ce torrent produise tout ce qu'il doit produire pour les milliers, les centaines de milliers qui sont partout autour de nous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. Je te rends grâce Seigneur, parce que ce torrent il n'est pas desséché, ce torrent il n'est pas aride. Et Seigneur, j'aimerais, comme ce chant le dit, que tu nous plonges dans ta rivière d'amour, afin que nous puissions être de ceux comme Ézéchiel qui apporte la vie, qui apporte le souffle la régénération. Seigneur, je t'en supplie que la prochaine étape de l'assemblée soit prophétique, soit glorieuse. Amen.